Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Calade. Au sommaire de notre édition, François Boursy, animateur des conférences du Fait du Mois à Villefranche, abordait ce mois de novembre le thème de la société de vigilance dont faisait référence Emmanuel Macron lors de son intervention au lendemain de l'attentat terroriste contre la préfecture de police. Puis Lola vers la mer est le second film de Laurent Michéli. Il aborde le thème de la transidentité. La toute jeune comédienne Mia Bollard, qui fait ses premiers pas au cinéma, est également transgenre, comme l'héroïne du film. Ils étaient tous deux les invités des rencontres du cinéma francophone en Beaujolais. Et en conclusion, l'art brut s'invite dans la ville de Villefranche avec l'atelier Campagne Art Belgique sur une initiative de l'association L'art brut en compagnie jusqu'au 8 décembre prochain. Avec nous Alain Moreau, membre de l'art brut en compagnie. Calade, le journal. La décision suscite un tollé chez les associations écologistes et parmi les députés. Jeudi 14 novembre, l'Assemblée nationale a voté sans débat un report à 2026 de l'effacement de l'huile de palme de la liste des biocarburants qui bénéficient d'un avantage fiscal. Cette mesure est favorable au groupe pétrolier Total pour sa nouvelle bioraffinerie de la Med près de Marseille. Article du journal Le Monde et de l'AFP. Des députés donc de la majorité et de l'opposition ont aussitôt réclamé un nouveau scrutin, mais à ce stade, le gouvernement ne prévoit pas de nouvelles délibérations. La commission des finances de l'Assemblée doit se réunir à la mi-journée sur ce point, le rapporteur général Joël Giraud de La République En Marche ayant demandé une nouvelle délibération. Et on peut lire quelques tweets. Deux réactions des déçus. Le sort de l'huile de palme dans les biocarburants, soit de la forêt en Asie, a donc été expédié en moins de 20 secondes, avec un résultat favorable pour les activités climaticides de Total. Voilà comment on traite l'enjeu écologique dans ce pays. Chez Liberté et Territoires, Mathieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot, demande une nouvelle délibération. Un recul serait inacceptable. Pour le président ex-LR des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, c'est un coup de poignard fait au développement local des biocarburants. D'autres solutions que l'huile de palme existent et ne sont pas responsables de désastres écologiques. Ce vote a également suscité l'ire des Amis de la Terre. Selon l'association écologiste, les députés de la majorité, avec la complicité du gouvernement, viennent de céder au lobbying éhonté de Total. Et de faire en plus un cadeau fiscal évalué entre 70 et 80 millions d'euros. De son côté, Total renvoie aux déclarations de son PDG, Patrick Pouyanné, dans le JDD fin octobre. Ce dernier avait affirmé vouloir juste être au même niveau de compétition que nos concurrents européens qui, contrairement à nous, bénéficient d'un avantage fiscal jusqu'en 2030. Sur un plan juridique, Greenpeace France conteste devant le tribunal administratif de Marseille l'autorisation préfectorale délivrée à Total pour ouvrir cette raffinerie. François Boursy, animateur des conférences du Fait du Mois à Villefranche, abordait ce mois de novembre le thème de la société de vigilance dont faisait référence lors de son intervention au lendemain de l'attentat terroriste contre la préfecture de police Emmanuel Macron. Discussion avec celui-ci tout de suite.
Tout à fait, c'est l'intervention d'Emmanuel Macron au lendemain de l'attentat terroriste contre la préfecture de police qui a fait 4 morts et qui appelait la France à devenir une société de vigilance. Alors il mettait en même temps en évidence le risque de basculer dans la société de la délation et du soupçon. Je crois qu'il faut replacer cette réflexion sur la société de vigilance sur une séquence que nous venons de vivre en France. Une séquence que moi je situe entre le 28 septembre avec l'intervention d'Éric Zemmour, discours de haine anti-musulman, lors de la convention des droites initiée par Marion Maréchal. Discours d'ailleurs qui avait été retransmis par une chaîne de télévision d'information continue. Et là commence une séquence.
Sans mordre les doigts, je crois.
Sans doute. Et une séquence qui se continue avec l'attentat terroriste, mais aussi le débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale, l'attentat contre la mosquée de Bayonne, jusqu'à la manifestation de dimanche qui disait stop à l'islamophobie. Entre-temps, il y a eu pas mal de pétitions signées par des gens du show business qui est paru dans le journal Le Monde, puis une paru dans Libération. Séquence qui, à mon sens, doit être interprétée comme une espèce de, entre guillemets, répétition générale de mise en tension de la société entre, d'un côté, les islamistes radicaux terroristes et de l'autre côté, les tenants de, j'allais dire, de l'identitarisme. Comme si ça les arrangeait de jouer, entre guillemets, à la guerre des civilisations, au choc des civilisations. Sous-entendu, il n'y aurait pas possibilité de faire vivre en France des musulmans et des chrétiens ou des catholiques et des juifs. Il va falloir choisir. Et d'une certaine manière, les islamistes de l'UOIF, les islamistes politiques de l'UOIF, du CCIF, qui étaient à l'initiative de la manifestation dimanche, sont en résonance avec les discours en provenance de gens comme Éric Zemmour. Finalement, c'est ce que dit d'ailleurs Renaud Camus, cet intellectuel qui a inventé la théorie du grand remplacement. Il dit « mais les identitaristes et les islamistes se connaissent bien parce qu'ils ont la même conception des choses ». C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. C'est-à-dire que les gens qui, de la mouvance, des milieux de la droite extrême jusqu'aux identitaires, et qui sont passés à l'acte. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ces gens-là passent à l'acte physique. Ils risquent de tuer, ils ont failli tuer à la mosquée de Bayonne. Alors qu'on sait que par ailleurs, les islamistes politiques, eux, ont déjà tué avec tous les attentats qu'a vécu la France depuis 1986. Comme si ça les arrangeait de voir monter en tension une sorte de possible guerre civile. Et donc dans ce contexte-là, l'appel à la vigilance d'Emmanuel Macron, c'est aussi un appel à sortir du piège dans lequel voudraient nous enfermer les gens qui investissent des postures radicales aujourd'hui.
Chaque mois, François Boursier, historien, vous invite aux conférences du Fait du Mois à Villefranche, à l'initiative des Amis de l'éducation populaire. Laurent Micheli, le réalisateur belge, aborde pour la seconde fois le thème de la transidentité dans son dernier film « Lola vers la mer ». Mia Bollard, qui fait ses premiers pas au cinéma, est également transgenre, comme l'héroïne du film. Convaincue de la nécessité de donner une meilleure visibilité pour le réalisateur aux minorités, trop souvent discriminés. Ils étaient tous deux les invités des rencontres du cinéma francophone en Beaujolais.
Alors évidemment, ce qui m'intéressait dans le fait de choisir Mia, c'était son rapport de proximité avec le personnage. Et en même temps, ça reste un personnage de fiction. C'est un personnage que moi, j'ai écrit. Quel est un juste rapport, une juste distance entre elle et ce qu'était ce personnage. Donc voilà, c'est comment on crée le corps du personnage. Quel est le biorhythme du personnage. Quelle est sa façon de marcher. Quelle est sa façon de fumer. Comment est-ce qu'elle va s'habiller. Quelle musique elle écoute. Enfin, voilà.
Mia, vous avez effectivement aidé à nourrir ce que pouvait effectivement, hormis dans la vue du réalisateur aussi, Lola.
Je pense qu'il est évident que chaque comédien ou comédienne met de soi pour faire un rôle. Et là, c'est juste la même chose. J'ai des points similaires avec le vécu de Lola. Et c'est évident que pour certaines scènes, je me suis servi de mon propre vécu pour me tirer vers le haut, en fait, simplement.
Ouais.
La première fois que j'ai lu le scénario, j'ai trouvé ça bien. Il y a plusieurs scènes qui m'ont fait rire et je m'y voyais assez bien. Et en revanche, il y avait d'autres choses qui me terrorisaient complètement. Par exemple, faire du skate, ça me terrorisait, mais pas tant en soi le faire. La façon d'apprendre à le faire, ça me terrorisait. Et donc, c'est tout un travail aussi sur moi-même et sur se faire confiance. Et puis surtout, faire confiance à Laurent. Parce que s'il n'y avait pas eu cette confiance avec Laurent, je ne pense pas que j'aurais été autant à l'aise pour interpréter Lola.
Le skate a son importance ?
Oui, bah, j'avais envie de créer un personnage à la fois moderne, aussi qui cherche à flouter les frontières de ce qu'on peut attendre de ce qu'est une fille ou de ce qu'est un garçon. Voilà, il y avait l'idée de dire que c'est un personnage qui invente sa propre féminité, que donc ça passe par des choses comme être une fille trans et aimer faire du skate. Enfin voilà, avant sa transition, Lola aimait déjà faire du skate. C'est pas parce que tout à coup elle transitionne qu'elle va arrêter d'en faire. D'une invitation à la liberté, à être ce qu'on a envie d'être par rapport à sa propre féminité ou masculinité.
C'est un questionnement effectivement de parents. On va en venir effectivement à ce rôle de père qui est donc interprété par Benoît Maginel. Un père complètement hermétique, un père qui va progresser finalement.
Faut dire comme ça. Oui, bah c'est un personnage qui évolue beaucoup dans le sens où en fait pour moi c'est comme une forme d'archétype de ce qu'est la société aussi ce personnage. C'est un de ses représentants et il me semble qu'aujourd'hui ce qui doit le plus évoluer, c'est bien la société, non pas les minorités. Les minorités, face à elles-mêmes, savent ce qu'elles veulent, savent qui elles sont, et sont a priori heureuses d'être qui elles sont. Ce qu'on remet en question, c'est le jugement des autres, c'est le regard de l'autre, celui qui nous enferme, qui nous condamne, qui nous stigmatise, qui nous ostracise. Donc il s'agit bien de ce regard-là qu'il faut remettre en question, et donc c'est celui-là qui doit le plus évoluer, et c'est ce qu'est ce personnage, Philippe, c'est le personnage qui effectivement est un peu buté, mais en même temps qu'on apprend à connaître aussi petit à petit, et on se rend compte que c'est quelqu'un en fait qui a un bon fond, quelqu'un qui a envie d'aimer, mais qui aime un peu de la mauvaise manière.
Comment ça va en ce moment?
Ça va. Le traitement me fait du bien. Je me sens mieux.
Pourquoi tu veux faire ça? Moi j'ai eu un garçon, j'ai pas eu une fille.
De toute façon, que je fasse cette opération ou pas, ça changerait au fait que je suis déjà une femme. Faut juste l'accepter, c'est tout.
Lola vers la mer, film de Laurent Micheli. Film en compétition du festival Les Rencontres du cinéma francophone en Beaujolais 2019. L'Art Brut s'invite dans la ville de Villefranche avec l'atelier Campanière Belgique sur une initiative de l'association L'Art Brut en compagnie jusqu'au 8 décembre prochain. Des rencontres improbables d'artistes porteurs d'un handicap à découvrir dans des lieux singuliers, avec le soutien de nombreux partenaires, comme nous le précise Alain Moreau, à l'initiative de l'exposition et fondateur de l'association L'Art Brut en compagnie.
Alors, sont tous des artistes porteurs de handicap. Moi, le handicap, ça m'intéresse parce que cette différence-là, je trouve qu'on la regarde pas assez d'une façon positive peut-être. En tout cas, qu'on a les artistes d'art brut sont souvent des artistes à la marge, souvent en situation d'exclusion. Beaucoup aussi sont handicapés, pas mal ont été dans les hôpitaux psychiatriques. Et je trouve que ces artistes-là, parce que je porte un projet humaniste avec l'association, on se doit de les montrer. Et parce que aussi, pas parce qu'ils sont handicapés, mais parce qu'ils ont un potentiel créatif extraordinaire, une liberté, que ce sont des rebelles tendres en quelque sorte, et que l'art est formidable. Et c'est ce qui fait l'art brut aujourd'hui, ce sont aussi ces artistes-là. Et je trouve que ça a du sens, comme dirait l'autre, aujourd'hui, de les accompagner dans la société, de les mettre dans la ville, de les mettre dans les écoles, ce que je m'emploie à faire. Et je suis ravi aussi de les mettre dans deux écoles et de réaliser à l'école Albert Camus et à l'école Pierre Monté des fresques avec les enfants et les artistes qui sont des artistes handicapés, et de faire pénétrer dans les écoles où les portes sont ouvertes magnifiquement par les maîtresses et par l'inspection d'éducation nationale et par les directrices à ces artistes différents.
À l'heure où on parle effectivement d'éducation inclusive, hein, bien évidemment, ça voilà, tombe à pic.
On est en plein dedans.
Voilà, tout à fait. Et j'allais dire, alors, le hangar 717, un peu central peut-être.
Peut-être que le lieu le plus central, c'est l'hôtel de ville, au niveau géographique, où là, il y aura 3 artistes présentés, une 30aine d'œuvres, dont certaines ont été créées pour l'exposition. Une Marianne, qu'on va découvrir, une sur le Beaujolais, et une autre dont je ne dis pas la teneur. Et puis, bien évidemment, il y a ce hangar 717, où tous les artistes seront réunis. Il y a plusieurs lieux, avec à chaque fois 3 ou 4 artistes par lieu. Mais ils seront les 13 de l'atelier Campagnard, plus les 7 de l'atelier de Saint-Didier-sur-Beaujeu de la Givre, sont tous présents ici au hangar 717, et donc tous réunis, rassemblés à cet endroit-là.
Quelques 150 œuvres dispersées dans la ville, proposées par l'association Art Brut en compagnie. Une exposition qui accueille les artistes de l'atelier Campagnard du Centre d'accueil pour adultes handicapés, de la Reine Fabiola en Belgique. Une déambulation dans la ville pour découvrir les œuvres de ces artistes dans le hall de l'hôtel de ville de Villefranche, mais aussi au bric-à-brac du foyer Notre-Dame des Sans-Abri, également au hangar 717, entre autres, jusqu'au 8 décembre. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.